France Musique.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Merci d'avoir choisi France Musique. Nous allons commencer cette émission avec Richard Strauss et un extrait de son concerto pour hautbois. Alors l'histoire de ce concerto, je vous la raconte en deux mots car elle est assez saugrenue. En mai 1945, Richard Strauss était exilé en Suisse. Il avait reçu la visite de John Delancey, le futur hautbois solo de l'orchestre de Philadelphie. John était en caserne au pied des Alpes bavaroises. Il en avait profité pour rendre visite à Strauss et pour lui dire toute son admiration pour ses poèmes symphoniques, et par la même occasion, il va lui suggérer d'écrire un concerto pour hautbois, ce à quoi Strauss était catégoriquement opposé, puis il va revenir sur sa décision et achever un concerto pour hautbois le 25 octobre 1945. Nous allons écouter tout de suite le final de cette œuvre jouée par Alexei Ogrinchuk au hautbois.
Thank you.
Vivace, finale du concerto pour hautbois et petit orchestre en ré majeur, composé par Richard Strauss, Alexei Ogrinchou, qui était au hautbois, l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, placé sous la direction d'Andris Nelsons. Alors j'aimerais vous proposer maintenant quelques pages de Jean-Sébastien Bach, qui est interprété par le pianiste Murray Peraya. Vous savez qu'il a gravé très largement la musique de Bach ces dernières années, puisque ce compositeur l'a accompagné dans une période délicate de sa vie. Il avait été obligé d'arrêter de jouer du piano, Murray Peraya, à cause d'une infection au doigt. Et c'est auprès de Bach qu'il a trouvé le réconfort. J'ai étudié sa musique chaque jour et elle m'a nourri. Je lui en suis infiniment reconnaissant, nous dit-il. Nous allons donc écouter Murray Peraya dans quelques extraits de la sixième suite anglaise en ré mineur de Bach, le prélude, la courante et pour terminer la gigue.
Thank you.
Prélude, courante et gigue, trois mouvements extraits de la sixième suite anglaise en ré mineur, BWV 811 de Jean-Sébastien Bach, dans cette version qui mêlait esprit de la danse et rigueur contrapuntique de la musique de Jean-Sébastien Bach, version du pianiste Murray Peraya.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Quelques pages de Mozart, tout de suite, quelques pages composées au cours de deux années, des années 1782 et 1783. Mozart avait à peine plus de 25 ans, il vivait à Vienne avec sa femme Constance. Il avait fait un serment, celui d'écrire une messe qu'il ferait interpréter si le premier accouchement de sa femme se passait bien. L'accouchement s'est bien passé et Constance a même pu chanter lors de la première exécution de l'œuvre à l'église Saint-Pierre de Salzbourg en octobre 1783. On dit qu'elle a chanté l'une des deux parties de soprano solo, deux parties de soprano que l'on entend dans le Domine Deus, extrait du Gloria de cette sublime messe en do mineur de Mozart. Les sopranos Barbara Bonnet et Arlene Auger, l'orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abbado dans le Domine Deus, extrait du Gloria de la messe en do mineur, Köchel 427 de Mozart. Et c'est un extrait de la symphonie de Georges Bizet que je vous propose maintenant, œuvre tombée dans l'oubli pendant fort longtemps. Bizet l'avait composée à 17 ans après avoir entendu la première symphonie de Charles Gounod en avril 1855. Aussitôt, il l'avait transcrite dans une version pour piano à quatre mains. Il avait entrepris dans la foulée sa symphonie qu'il avait terminée avant la fin du mois de novembre de cette année 1855. Et plutôt que de faire jouer sa symphonie, il va la ranger dans un placard. Elle sera retrouvée en 1933 seulement dans une liasse de manuscrits offerts par Reynaldo Hahn à la bibliothèque du Conservatoire de Paris. Nous allons écouter tout de suite le final de cette symphonie de Bizet qui a bien failli ne jamais voir le jour. Thank you. Allegro vivace final, quatrième et dernier mouvement de la symphonie en do majeur de Georges Bizet dans une version qui me semble absolument parfaite. L'orchestre de Paris était dirigé par Semyon Bychkov, salle Pleyel à Paris en mai 1990.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Alors c'est le magnifique intermezzo qui est sans doute le sommet du carnaval de Vienne de Robert Schumann que je vous propose d'écouter maintenant. Schumann l'avait composé en 1839 alors qu'il avait séjourné quelques mois à Vienne. Il avait 29 ans, il caressait l'espoir de se faire une situation dans la capitale autrichienne. Mais il n'en fut rien, la ville est trop frivole à son goût. Mais elle lui a tout de même inspiré cette page admirable, cet intermezzo de son carnaval de Vienne. Intermezzo du carnaval de Vienne, composé par Robert Schumann, interprété à l'instant par la pianiste Maria João Pires. Je vous propose encore un peu de Schumann dans notre van cet après-midi. C'est son troisième trio en sol mineur que nous allons écouter. Troisième et dernier trio, composé à une vitesse folle en quelques jours, seulement entre le 2 et le 9 octobre 1851. La partition est dédiée à l'un des amis de Schumann, le compositeur danois Niels Gade. Je vous propose que nous écoutions le premier mouvement de ce trio avec son premier thème dynamique et lancé. Il est interprété par les musiciens du trio Les Esprits.
Thank you.
Bewegt doch nicht zu rasch, animé mais pas trop vite. Premier mouvement du troisième trio en sol mineur de Robert Schumann, joué par les musiciens du trio Les Esprits, Adam Laloum au piano, Misa Yang au violon et Victor-Julien Laferrière au violoncelle. Alors c'est la musique de l'homme aux 27 symphonies que nous allons écouter maintenant. Il s'agit du compositeur Nikolaï Miaskovski, né en avril 1880, mort en août 1950. Miaskovski qui, malgré son immense production et ses 27 symphonies entre autres, Miaskovski qui est le moins connu des compositeurs soviétiques de son époque, les deux plus connus étant Prokofiev et Shostakovich. Prokofiev qui était l'un des amis toujours de Miaskovski et qui avait déclaré au sujet de sa musique « Tout ce qu'a écrit Miaskovski est profondément personnel et d'une intuition psychologique admirable. Cette musique n'est pas de celles qui deviennent rapidement populaires. Sa musique est pleine de sagesse, passionnée, sombre et profondément introspective. En cela, il est proche de Tchaïkovski et je pense qu'il est fondamentalement son héritier. » Eh bien, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis sur la question, puisque voici tout de suite le troisième mouvement de la 27e et dernière symphonie en do mineur de Miaskovski.
Thank you.
Presto Manon Troppo, finale, troisième mouvement de la 27e et dernière symphonie en do mineur composée par Nikolaï Myaskovski dans la version de l'Orchestre Symphonique Académique du RSS placée sous la direction d'Yevgeny Svetlanov. La jeune et talentueuse violoncelliste Anastasia Kobekina va nous interpréter Nikolaï Myaskovski. À présent, je propose que nous l'écoutions dans l'Andante Cantabile, deuxième mouvement de sa deuxième sonate pour violoncelle et piano en la mineur. Sonate qui avait été conçue à l'origine pour viol d'amour, puis transcrite pour alto par l'altiste du quatuor Beethoven. Mais on la connaît davantage jouée au violoncelle car elle a été popularisée par Mstislav Rostropovitch qui l'a très souvent jouée. Voici donc le deuxième mouvement de cette sonate par Anastasia Kobekina au violoncelle et Paloma Kuider au piano.
Thank you.
Andante cantabile, deuxième mouvement de la deuxième sonate pour violoncelle et piano en la mineure de Nikolaï Miaskovski, interprétée par cette jeune violoncelliste bourrée de talent, Anastasia Kobekina, avec Paloma Cuider au piano. Paloma Cuider qui était l'invitée de Jean-Baptiste Urbain ce matin pour son nouvel enregistrement consacré à Schoenberg, Schumann et Liszt, avec son trio, le trio Karenine, une émission que vous pouvez réécouter sur le site de France Musique. Un grand merci à toute l'équipe du VAN, Cécile Bonnet-Desclostre, Stéphane Poitvin et Vivian Lecuivre.
À réécouter sur francemusique.fr.